Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 20 mai 2024. Les funérailles du président iranien Ibrahim Raisi, tué dans un crash d'hélicoptère, débutent demain mardi. Une élection présidentielle en Iran aura lieu le 28 juin pour la succession du président iranien. Le procureur de la Cour pénale internationale requiert des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et trois dirigeants du Hamas pour les crimes à Gaza. L'Union africaine et la SADC condamnent la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma exclu des élections à 9 jours du vote. En Côte d'Ivoire, début des obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bedie.
Sa longévité, supposée à la tête du PDCI, a permis certaines stabilités aussi.
Sylvain Namoya, journaliste, évoquera dans la partie magazine l'avenir du plus vieux parti de Côte d'Ivoire sans Henri Konan Bedie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'Iran a décrété 5 jours de deuil pour rendre hommage à son président Ibrahim Raisi, décédé dans un crash d'hélicoptère hier. Cet ultra-conservateur était considéré comme l'un des favoris pour succéder au guide suprême Ali Khamenei. Claire Morin-Jibou.
Monsieur Raisi, qui avait le titre d'ayatollah, présidait la République islamique depuis près de 3 ans. Son décès à 63 ans ouvre une période d'incertitude politique en Iran, au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, un allié de la République islamique. De nombreux dirigeants ont envoyé des messages de condoléances. Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage à un politicien remarquable et à un véritable ami. Son décès est une grande perte, a dit le président chinois Xi Jinping. La France, l'Union européenne, l'OTAN ainsi que les pays arabes voisins de l'Iran dans le Golfe ont aussi présenté leurs condoléances. Monsieur Raisi figurait sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés par Washington pour complicité de graves violations des droits humains, des accusations balayées comme nulles et non avenues par Téhéran.
La succession du président Ibrahim Raisi va se jouer plutôt vite. Une élection présidentielle en Iran est prévue, en effet, le 28 juin, a rapporté aujourd'hui la télévision d'État. Le calendrier électoral a été approuvé lors de la réunion des chefs du pouvoir judiciaire, du gouvernement et du Parlement, a indiqué la télévision avec l'accord du Conseil des gardiens. Israël a effectué une nouvelle poussée aujourd'hui dans le centre de la bande de Gaza, bombardant des villes du nord de l'enclave et affirmant vouloir encore élargir son offensive à Rafah malgré les avertissements de l'administration américaine sur les risques de morts nombreuses dans la ville du sud. Les combats faisaient rage malgré la présence de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui a appelé les forces israéliennes à entreprendre une opération ciblée plutôt qu'une offensive à grande échelle à Rafah. Cela dit, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé aujourd'hui des mandats d'arrêt contre les principaux dirigeants d'Israël et du Hamas pour des crimes de guerre qui auraient été commis pendant et après le 7 octobre. Le point avec Rosine Monizero.
Les accusations sont portées contre Yahya Sinwar, chef du mouvement dans la bande de Gaza et cerveau présumé de l'attaque du 7 octobre, Ismaël Haniyeh, qui peut être décrit comme le chef du Hamas, et Mohamed Def, le chef de la branche armée du Hamas. Les accusations de crimes de guerre comprennent la prise d'otages, des traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne. D'autres accusations sont portées contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Elles comprennent notamment le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile et d'autres crimes contre l'humanité. Le procureur a précisé avoir convoqué un groupe d'experts juridiques à titre de garantie supplémentaire avant de demander les mandats d'arrêt. Il a également déclaré qu'il n'hésiterait pas à demander d'autres mandats si nécessaire. Je renouvelle mon appel à toutes les parties au conflit actuel pour qu'elles respectent la loi dès maintenant, a-t-il souligné.
Le président américain Joe Biden a fustigé le mandat d'arrêt réclamé par le procureur de la CPI contre des dirigeants israéliens, estimant qu'aucune équivalence n'était possible entre Israël et le Hamas. La demande du procureur est scandaleuse, a affirmé le président américain dans un communiqué, tandis que le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a déclaré que la démarche du magistrat était une honte. Anthony Blinken a estimé par ailleurs dans un communiqué que la demande du procureur pourrait compromettre les pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza. Le procès de Donald Trump pour paiement dissimulé à une star du X entre dans sa dernière ligne droite, le juge ayant indiqué aujourd'hui que les plaidoiries finales commenceraient la semaine prochaine avant un verdict historique aux enjeux politiques considérables. Après les dernières interventions de l'accusation et de la défense, le juge donnera solennellement des instructions, ces instructions aux 12 jurés, puis leur confiera la lourde tâche de décider du sort de l'ancien président américain. Pour le déclarer coupable, l'unanimité devra être requise. Julian Assange a remporté aujourd'hui une victoire dans sa longue bataille judiciaire contre son extradition vers les États-Unis. La justice britannique a accordé la possibilité d'un nouvel appel au fondateur de WikiLeaks que les États-Unis veulent juger pour une fuite massive de documents poursuivis pour avoir rendu public à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Le fondateur de WikiLeaks en cours aux États-Unis jusqu'à 175 ans de prison.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, les questions fusent au lendemain de la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. L'armée a annoncé avoir déjoué un coup d'État impliquant plusieurs Américains et un Britannique. De nombreux habitants de Kinshasa s'interrogeaient lundi sur les motivations des assaillants. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
La communauté de développement de l'Afrique australe dit condamner avec la plus grande fermeté les événements du 19 mai. L'Union africaine a déclaré qu'elle condamnait fermement la tentative de putsch, tandis que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa s'est dit choqué. Dans un message diffusé à la télévision nationale, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, a déclaré qu'une tentative de coup d'État a été stoppée par les forces de défense et de sécurité. Les événements se sont produits aux premières heures de dimanche devant la résidence du ministre de l'économie Vital Kamerhe, dans le quartier de la Gombe, dans le nord de la capitale. Le groupe s'est ensuite rendu au Palais de la Nation, qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi, en brandissant des drapeaux du Zaïre. Des coups de feu ont été entendus à proximité du bâtiment selon plusieurs sources. Plusieurs Américains et un Britannique faisaient partie du groupe impliqué dans l'opération, selon la déclaration de l'armée. Une quarantaine d'assaillants avaient été arrêtés et quatre autres tués, dont un Congolais naturalisé américain du nom de Christian Malanga, qui serait à la tête du complot.
La justice malienne a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison, dont une ferme, l'universitaire et militant politique Étienne Fakaba Sissoko. Il est l'une des rares voix dissonantes à encore tenter de se faire entendre de l'intérieur. Il est mis en cause pour la publication en 2023 de propagande, agitation et harcèlement, la communication gouvernementale pendant la transition au Mali. Son avocat a dit son intention de faire appel. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma n'a pas le droit de se présenter aux élections parlementaires de ce mois-ci, a statué ce lundi la plus haute juridiction du pays. Cette inéligibilité fait suite à sa condamnation à la prison en 2021. Les détails avec Nani Talani.
Jacob Zuma, 82 ans, qui n'était pas présent au tribunal, était tête de liste du mouvement Umkhonto weSizwe, MK, lance de la nation en Zoulou, du nom de l'ex-branche armée de l'ANC, qu'il a rejoint après s'être brouillé avec le Congrès national africain au pouvoir et quitté sa présidence. Mais la Cour constitutionnelle a jugé que, conformément à la Constitution, la peine de 15 mois de prison prononcée contre M. Zuma pour outrage à la justice en 2021 l'empêche de se présenter aux élections du 29 mai. Il est déclaré que M. Zuma a été reconnu coupable d'un délit et condamné à plus de 12 mois d'emprisonnement et qu'il n'est donc pas éligible pour être membre et non qualifié pour se présenter aux élections à l'Assemblée nationale, dit le jugement. Pour le MK, ce jugement n'affecte pas sa campagne, Les dirigeants vont se réunir et suivre les directives de M. Zuma sur la voie à suivre. La commission électorale a fait savoir que la photo de M. Zuma restera sur le bulletin de vote pour les élections, car il est le leader enregistré de MK, mais que son nom sera retiré de la liste des candidats parlementaires nommés par MK. Les Sud-Africains éliront leurs députés qui désigneront ensuite leur prochain président.
Le président kenyan William Ruto sera reçu jeudi à Washington pour une visite d'État rare et symbolique au moment où Nairobi, partenaire privilégié de Washington en Afrique, s'apprête à envoyer des policiers en Haïti pour y diriger une mission multinationale sensible. Les États-Unis n'ont plus reçu de dirigeants africains en visite d'État, plus haut degré du protocole diplomatique depuis le Ghanéen John Kufuor en 2008. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire a suspendu les échanges commerciaux d'une quarantaine de coopératives soupçonnées de stocker illégalement plus de 60 000 tonnes de cacao afin de les vendre à un prix plus élevé à des exportateurs qui ont du mal à remplir leurs contrats, ont indiqué vendredi deux sources du régulateur. La suspension vise à empêcher les paiements excessifs de la part des petits exportateurs qui tentent de rivaliser avec les acheteurs multinationaux de cacao. Alors que le prix bord champ était fixé à 1500 francs CFA le kilo pour la saison d'avril à septembre, certaines coopératives et autres acheteurs demandent aux multinationales de payer entre 1600 et 1800 francs CFA dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Au Ghana, le Parlement vient d'approuver un accord de près de 150 millions de dollars entre le gouvernement et la Banque mondiale pour améliorer la résilience économique d'Accra. Le prêt a été approuvé à la majorité, tandis que la proposition d'exonération fiscale pour les entreprises a été abandonnée. Pour terminer, les marchés mondiaux de pétrole brut s'affaiblissent en raison de la faiblesse de la demande des raffineries et de l'abondance de l'offre, ont déclaré des vendeurs à Reuters. Cela pourrait entraîner une nouvelle faiblesse des contrats à terme de référence sur le brut.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Zamalek du Caire remporte la Coupe de la Confédération.
Oui, les Égyptiens ont été sacrés à domicile suite à leur courte victoire 1-0 face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. En finale retour de cette Coupe de la CAF, le Zamalek, qui avait perdu 2-1 lors du match aller, a réussi donc à décrocher son deuxième titre dans la compétition après un premier sacre remporté en 2019. C'était déjà face à Berkane.
En Ligue des Champions, le suspense reste entier à l'issue de la finale aller.
La faute à une bataille tactique qui a amené les deux équipes à se neutraliser 0-0. L'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire n'ont pas réussi à se départager au terme d'une rencontre musclée où il y a eu un seul tir cadré, d'où la déception de Miguel Cardozo, entraîneur de l'Espérance de Tunis.
On n'est pas content vraiment, mais on est tranquille. Ce sont deux sentiments qu'on a en même temps. Je crois que c'est normal. Parce que on est fiers de notre chemin. On a joué 7 matchs dans Champions League au plus haut niveau. Je crois que nos joueurs sont à jouer à un niveau très fort, très bon. L'organisation défensive aussi, quelques efforts, beaucoup d'efforts des joueurs d'être, de comprendre comment défendre les espaces. C'est pas facile de jouer un match avec joueurs qui exploitent l'espace interligne et même l'espace au dos, comme les joueurs d'Al Ahly.
Miguel Cardozo, entraîneur de l'Espérance de Tunis. Les deux équipes devront se montrer bien plus réalistes lors de la finale retour prévue ce samedi au Caire.
Ici en NBA, Minnesota surprend Denver et retrouve Dallas en finale de conférence Ouest.
Les Timberwolves ont sorti les Nuggets, champions NBA en titre en demi-finale de conférence Ouest, à Denver après leur victoire 98-90 lors du match numéro 7 de la série. Les Wolves ont réussi un comeback impressionnant en remontant le plus grand déficit de points à la mi-temps des matchs numéro 7 dans l'histoire de la NBA, alors que les Nuggets menaient de 15 points. Du côté de Denver, le MVP de la saison régulière, Nikola Jokic, a tout donné avec un double-double autoritaire à 34 points et 19 rebonds. Mais cela n'a pas suffi face à Minnesota qui retrouve les finales de conférence pour la première fois depuis 2004. Les Timberwolves vont affronter Dallas en finale de conférence ouest. À l'est, Indiana s'est aussi qualifié pour la finale de conférence en écrasant les New York Knicks 130-109 lors du 7e et dernier match de leur demi-finale et disputera face à Boston une place en finale NBA.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En RDC, la résidence de Vital Kamerhe, l'un des leaders de l'Union sacrée pour la nation, la coalition au pouvoir derrière le président Félix Tshisekedi, a été visée hier par des assaillants qui ont, selon l'armée, tenté de renverser le pouvoir. Deux de ses gardes ont été tués avant que le leader du commando ne soit à son tour abattu. Pour une explication, Eddie Isango, adjoint à Kinshasa, l'un des membres de la coalition et du parti au pouvoir, Maître Richard Impinda.
Il y a eu tentative de coup d'État parce que les hommes armés sont allés vers le bureau du président de la République. Ils sont allés, vous le dites vous-même, attaquer le ministre de la Défense. C'est une tentative qui a échoué. Et moi, je retiens par rapport à cette tentative-là qu'il faille à ce que les services de sécurité puissent davantage être vigilants. Parce que il faut se le dire, si vous observez très attentivement la situation de ce qui se passe à l'est de la République, que les FARDC sont en train d'aller de victoire en victoire, c'est-à-dire les territoires qui, jadis occupés par le M23, les RDF et autres, aujourd'hui sont repris par les FARDC et les Wazalendo. Et donc, nard de la guerre, s'il faut le dire ainsi, il faut cibler maintenant les institutions de la République, les neutraliser. Voilà pourquoi vous vous souviendrez qu'il y a eu à un moment donné des tensions entre la République démocratique du Congo et la République du Congo Brazzaville, tout simplement parce que la présence des militaires rwandais était signalée au bord du fleuve.
Hier, on a parlé de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. Vous qui êtes un peu proche de dans votre famille politique, qu'est-ce s'est-il passé exactement?
Écoutez, vous savez, je n'y crois pas trop à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe, parce que je pars du principe qu'il est question d'un coup d'État. Quand on dit coup d'État, on évoque le renversement des institutions établies. Et donc, ce qui veut tout simplement dire que la personne de Vital Kamerhe, s'il avait été ciblé personnellement, cela aurait consisté à renverser le régime politique établi en place. Et donc, l'opinion retiendrait que nous partons du principe que Vital Kamerhe, à ce stade ici, il n'est qu'un député ordinaire et qu'il est pressenti potentiel président de l'Assemblée nationale. Même s'il était président de l'Assemblée nationale, les neutraliser, lui, n'aurait pas d'impact sur le changement de l'ordre institutionnel établi en République démocratique du Congo. Et donc, je n'y crois pas.
Est-ce qu'il y avait un message derrière cela?
Oui, je pense qu'il y a un message, parce qu'à un moment donné, lorsque Christian, qui était le chef de ces assaillants-là, a dit « Nous avons fait notre part, il reste à ce que vous fassiez la vôtre ». Mais la question que nous devions nous poser, c'est de savoir, il s'adressait à qui? Et aussi, il faut se le dire,
il a dit où?
Pour ça qu'il a dit dans les vidéos qui circulent, des vidéos de lui qui circulent. Mm-hmm. Au-delà de ça, vous conviendrez aussi avec moi que les assaillants sont allés vers le palais présidentiel. Et à mon entendement, à mon avis, ils ont voulu tout simplement avoir une idée du temps que ça prendrait pour que les forces armées ou les services de sécurité puissent réagir. Donc en soi, je dirais que c'est comme un ballon d'essai qu'on a fait pour voir comment est-ce que on allait réagir par rapport à ça.
Maître Richard Impinda, membre de la coalition et du parti au pouvoir, l'UDPS.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août, ont débuté hier par la présentation des condoléances à sa famille à Abidjan. C'est le coup d'envoi de 2 semaines d'hommage pour l'ancien patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui s'achèveront par son inhumation le 1er juin. Henri Konan Bédi est décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Que retenir de son héritage politique? Yacouba Ouedraogo a posé la question à Sylvain Namoya, fondateur du site d'information Côte d'Ivoire Today.
Bédi a été, à 26 ans déjà, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, député et maire de Daokro, sa ville natale. Il a été président de l'Assemblée nationale avant de finir président de la République de 1993 à 1999. Depuis 1994 jusqu'au 1er août 2024, j'étais le président du pays. C'est un homme politique averti qui a consacré véritablement sa vie au développement de la Côte d'Ivoire, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais aussi à la vie de son parti, le PSI, après le distributeur fondateur, le président Félix Foubaye.
D'aucuns disent aussi qu'il a en quelque sorte monopolisé le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, quand il vivait bien sûr. Est-ce votre avis?
Bon, monopolisé, vous savez, c'est selon sa longévité, se poser à la tête du PDCI, a permis certaines stabilités aussi. Parce que c'est un vieux parti qui est sauvage. Et donc le fait qu'il y ait des jeunes loups, j'allais dire aux dents longues, ça pourrait être l'objet de convoitise et l'objet aussi de l'occasion du parti, justement parce que si ces jeunes loups avaient eu, peut-être on leur avait donné cette possibilité de se battre, le parti serait resté stable jusqu'à ce jour.
D'aucuns disent qu'il s'est beaucoup comporté en faiseur du roi. Qu'est-ce que vous retenez sur ce plan-là?
Oui, c'est vrai que le PDCI a été pendant un certain temps aussi faiseur du roi, comme vous le dites, parce que lorsqu'il y a eu le Bonaparte en 1995, c'était Gbagbo Ouattara contre Bédi. Bédi venait d'aller de parvenir au pouvoir. Et puis après, c'est plutôt Ouattara et Bédi qui se sont alliés pour combattre Gbagbo jusqu'en 2010. Et effectivement, c'est leur alliance qui a permis aujourd'hui au RDRIR et RHDP aujourd'hui de parvenir au pouvoir. Ce ne l'aurait pas pu. Aujourd'hui encore, on parle d'alliance PDCI, PPAPI de Gbagbo Ouattara. Bon, malheureusement, c'est à ce jeu-là que le PDCI a joué. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, ça permettra au PDCI qui a un nouveau président, à la personne de Tidjan Thiam, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition pourra se réunir autour du candidat du PDCI pour battre le RHDP? C'est à voir, c'est peut-être à espérer.
Quel est l'avenir du PDCI avec Tidjan Thiam à sa tête?
La première chose qu'on peut noter, c'est que Thiam a 60 ans. Donc, il n'est pas de l'ordre des Bédiers ou des pères fondateurs. Ça veut dire qu'il y a eu un rajeunissement au niveau de ce parti-là. Deuxièmement, un monsieur comme Jean-Louis Dion n'a jamais gobé véritablement M. Tam, au point que ces derniers jours, il a encore déclaré qu'il serait candidat à la convention du PDCI. Alors, est-ce que Tiam aura cette main qui permettra de rassembler tous les partisans, tous les nouveaux militants? Parce qu'aujourd'hui, il faut le signaler aussi que son arrivée à la tête du PDCI, non seulement à la jeunesse du PDCI, mais aussi a permis à de nombreux militants qui étaient déçus de revenir. Maintenant, c'est vrai qu'il a géré un certain nombre de structures internationales, mais est-ce qu'il saura vraiment rassembler tout le peuple du PDCI? C'est là que tout le monde l'attend, justement.
Sylvain Namoya, journaliste, fondateur du site d'information Côte d'Ivoire Today, joint à Abidjan.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Les femmes en Mauritanie sont confrontées à une double contrainte, le cyberharcèlement sexuel et les obstacles culturels qui les empêchent de dénoncer pleinement ces abus. Cette situation est exacerbée par l'absence de lois adaptées. Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott, a rencontré deux présumées victimes. Nous avons modifié le nom de l'une d'entre elles pour protéger son identité.
Mariam, 26 ans, travaille dans une entreprise à Nouakchott. Dès son arrivée, son patron obtient son contact et commence, nous dit-elle, à la harceler sexuellement.
À chaque fois,
fois que je publiais un statut sur WhatsApp, il commentait en me disant que j'étais charmante et sexy, que j'avais un corps parfait. Au début, je ne réagissais pas par courtoisie. Cependant, comme je ne répondais pas à ses messages au téléphone, il profitait de ma présence au travail pour m'inviter dans son bureau. Une fois là-bas, il recommençait avec des avances malsaines.
Tabara, une mère de famille, raconte être également harcelée malgré son statut de femme mariée clairement affiché sur les réseaux sociaux.
Cette personne, elle commence à écrire, oui, tu sais pourquoi j'insiste. Tu as du potentiel, tu peux devenir ministre.
telle de tes amies, elle n'est pas plus compétente que toi. Si elle est parvenue à devenir telle, toi aussi tu peux l'être. Tu as juste besoin d'un coaching, etc. Je dis à cette personne, ah vraiment, merci beaucoup. Mais ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Et là...
Mariam et Tabara symbolisent les victimes de harcèlement sexuel en Mauritanie. Un phénomène accentué par les nouvelles technologies, selon le sociologue Abdoulaye Sow.
Les réseaux sociaux ont été un moyen qui a permis d'amplifier le phénomène, mais de lui donner aussi une certaine forme de lisibilité. Parce que c'est un outil de communication très prisé par les nouvelles générations de 14 à 18, de 14 à 25 ans.
Parmi les 10 présumées victimes de cyberharcèlement contactées pour ce reportage, seules 2 osent témoigner, dont Mariam à visage couvert.
Parce que ma téléphone est ligée.
Je reste employée dans la même entreprise, donc je ne vais pas prendre de risques pour mon poste. Je voulais simplement dénoncer le harcèlement sexuel auquel les femmes sont confrontées dans l'exercice de leurs fonctions.
Mais si la jeune fille parvient à témoigner, elle n'ose pas porter plainte, fait remarquer le sociologue Abdoulaye Sow.
Les policiers, les magistrats chargés de prendre le témoignage, chargés de noter la plainte, sont sécrétés par une société patriarcale où la fille qui est venue porter plainte ou dire qu'elle a été l'objet d'un harcèlement, ça se retourne même contre elle parce qu'on lui pose des questions qui va amener un sentiment de culpabilité. Parce que le fait d'envoyer des messages écrits, ce n'est pas une preuve au niveau de la droit. Sinon, chercher un témoin.
Les féministes militent aussi pour le projet de loi Karama sur le genre qui propose des peines allant de 1 mois à 5 ans de prison pour le harcèlement sexuel, mais font face à l'opposition des religieux qui le jugent contraire à la charia, la loi islamique. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden et son rival républicain dans la course à la présidence, Donald Trump, ont déjà accepté de participer à 2 débats. Un ensemble de règles vise à rendre leur interaction aussi civilisée que possible, mais il reste à voir si les débats influenceront les électeurs indécis, en particulier compte tenu de leur date. Le point avec Veronica Balderas Iglesias, le récit est de Jenny Niwa.
Débattre ou ne pas débattre, le président démocrate Joe Biden a donné une réponse directe le 15 mai.
Donald Trump a perdu 2 débats contre moi en 2020. Et depuis, il ne s'est pas présenté à un débat. Maintenant, il agit comme s'il voulait débattre à nouveau avec moi. Eh bien, avec plaisir, mon cher.
2 dates ont été fixées, le 27 juin et le 10 septembre. Donald Trump s'est montré inflexible à ce sujet lors d'un événement de campagne vendredi dans le Minnesota.
Je veux juste débattre avec ce type, vous savez. Je vais demander un test de dépistage de drogue aussi, d'ailleurs. Non, vraiment. Je ne veux pas qu'il arrive comme lors de l'État de l'Union, où il était complètement dans les vapes.
Il n'y a aucune preuve pour les affirmations de Trump. Le sénateur démocrate Chris Van Hollen a remis en question les tactiques de débat de l'ancien président lors d'une interview dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il veut créer une sorte d'atmosphère de cirque, mais le choix sera très clair. Je lui dis, vous avez Joe Biden, c'est le gars qui a grandi à Scranton, en Pennsylvanie. Il se bat pour la classe moyenne. Il croit à la dignité du travail et à la décence. Donald Trump, c'est l'agent du chaos.
L'ancien conseiller de la campagne Trump, Mark Lotter, également interviewé sur ABC, applaudit la présence prochaine des 2 candidats sur scène.
Il s'agit d'un rappel en direct et Donald Trump monte sur scène 2 ou 3 fois par semaine et pontifie pendant 90 minutes. Joe Biden fait rarement une véritable interview. Ce sera un défi pour le président Biden.
Les débats se dérouleront sans public. Les présentateurs des journaux télévisés de CNN et ABC pourront couper les micros si les candidats tentent de s'interrompre les uns les autres. L'objectif des débats est d'aider les électeurs à se faire une opinion avant l'élection présidentielle de novembre, explique June Speakman, professeur de sciences politiques à l'université Roger Williams.
Trump est particulièrement doué pour se concentrer sur les aspects négatifs de son adversaire. Il est moins intéressé par la discussion des problèmes. Je pense que Biden essaiera de se concentrer sur les problèmes, sur ses propres performances économiques et moins sur les caractéristiques de Trump en tant que candidat.
Pour que les débats influencent les votes, parle à l'American Enterprise Institute. Nous l'avons joint via Skype.
Lorsque les élections approchent et que de nombreux électeurs sont attentifs, ces débats sont très suivis et les gens les regardent pour voir s'ils sont indécis, s'ils veulent se décider à la dernière minute.
Les efforts des deux candidats pour convaincre se poursuivront cette semaine. Trump devrait se rendre dans le sud du Bronx le 23 mai. Biden sera en voyage officiel dans le New Hampshire le 21 mai.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.